Qu'est-ce qu'elle raconte en direct sur Radio Saféréole 94.2, le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h, et bien sûr podcastable sur le site n'importe où, n'importe quand. Avec Sophie au micro, Pierre à la technique. Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Saféréole et de Qu'est-ce qu'elle raconte, toutes mes excuses pour ce retard, absolument indépendant de ma volonté, est dû à des problèmes techniques. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 octobre et nous nous approchons dangereusement du 31 octobre. Alors vous savez peut-être que dans la tradition celtique, la nuit du 31 octobre au 1er novembre était une nuit très spéciale, puisque ce jour-là, cette nuit-là, les portes de l'autre monde s'ouvraient et les vivants et les morts pouvaient communiquer. C'était la nuit des esprits, des fantômes, et sans doute certains de ces esprits ont eu un peu d'avance aujourd'hui et sont venus tourmenter mon technicien et moi-même en nous empêchant de parler. Mais maintenant tout va bien et je puis vous raconter une première histoire. Une histoire de sorcière, bien sûr, qui nous vient de Provence. Dans un village provençal, il y avait une fille, grande et belle, qui s'appelait Eulalie. Eulalie avait 20 ans, elle avait la taille fine, de grands cheveux noirs et des yeux brillants. Une démarche engageante, un beau sourire, et pourtant, malgré tous ses avantages, malgré toutes ses qualités, Eulalie n'avait pas d'amoureux. C'est que dès qu'un des garçons du village la trouvait à son goût et s'approchait d'elle, les copains du garçon lui murmuraient à l'oreille « «Es un masco, c'est une sorcière!» !» Ce mot suffisait à dissuader le garçon d'aller plus avant dans sa relation avec Eulalie. Voilà ce qu'on racontait dans ce village. On racontait que la mère d'Eulalie, lorsqu'elle était jeune fille, avait un jour, fort imprudemment, pris la main d'une de ses voisines en train de mourir. Or, cette voisine était une masque, une sorcière. Toucher la main d'une sorcière suffit à vous faire devenir vous-même une sorcière. La nouvelle que la mère d'Eulalie était une sorcière ne s'est pas répandue suffisamment vite pour l'empêcher de se marier. Et voilà comment Eulalie est née. Mais quand on marie, eh bien, il n'a pas fait long feu et il est mort peu de temps après la noce d'une mystérieuse langueur que personne n'a bien expliquée. Sans doute le fait de sa sorcière de femme. Fille de sorcière, eh bien, ça veut dire sorcière aussi. Or, voilà qu'un jour, dans ce village, est arrivé un jeune gars, costaud, beau garçon, ma foi, qui s'appelait Mathias. Mathias venait pour travailler. Mathias a croisé le regard d'Eulalie et il a vu cette belle grande fille qui avait tout ce qu'il faut là où il faut. Il a senti son cœur battre dans sa poitrine. Et bien sûr, ses copains lui ont dit « non, t'approches pas de cette fille. Es un masque, quoi. C'est une sorcière. » Et Mathias, lui, n'avait pas peur des sorcières. Il ne croyait pas à toutes ces histoires de bonnes femmes. Il s'est approché d'Eulalie et d'œillade en œillade, de regard en regard. Les deux jeunes gens se sont plu, ils se sont parlé, ils se sont rencontrés. Ma foi, les choses allaient fort bien. Et Mathias était prêt à faire sa demande en mariage. Ses parents, bien sûr, n'étaient pas très enthousiastes, mais lui était tellement déterminé, tellement amoureux, tellement sûr de lui, que les choses se sont faites. Le mariage a été fixé pour novembre. On était en automne. Le fiancé a été autorisé par sa belle-mère à venir faire sa cour le soir. C'est qu'il y avait beaucoup de choses à discuter sur les préparatifs de la noce et aussi, bien sûr, sur l'installation du futur couple dans ses meubles. Mais les amis du jeune homme n'arrêtaient pas de lui dire, d'essayer de le raisonner, de lui représenter les risques qu'il courait en épousant une masque ou une sorcière. Mais Mathias, même s'il paraissait tout à fait indifférent à tout ce qu'on lui disait, au fond de lui, ça commençait quand même à le titiller, cette histoire de sorcière. Vous savez, ces petites phrases-là qu'on a dans la tête. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Voilà qu'un soir, il s'est attardé un peu plus longtemps que d'habitude auprès de sa fiancée. Il a remarqué que minuit approchant, les deux femmes, sa future belle-mère et sa fiancée, devenaient très nerveuses et qu'elles l'ont poussé dehors de façon fort cavalière en lui disant « Oh, maintenant il est tard, il faut que tu partes. » Or, à minuit, les sorcières vont au sabbat. Cette hâte lui a paru bizarre. La petite phrase lui est revenue dans la tête. « Et si c'était vrai ?» Alors le lendemain, il a fait exprès de s'attarder encore. Et de même que la veille, les femmes regardaient l'horloge et puis à minuit moins le quart, elles l'ont mis dehors sans ménagement. Ah, il s'est dit, quand même là, il y a quelque chose. Il faut que j'en aie le cœur net. Il a attendu le prochain samedi. Le samedi, tout le monde le sait, c'est le jour où les sorcières vont au sabbat et aucune ne peut manquer cette cérémonie-là. Comme d'habitude, le soir, Mathias s'est rendu chez sa fiancée et sa belle-mère, sa future belle-mère. Il a fait semblant d'être d'une grande fatigue. À 11h30, il s'est écroulé les coudes sur la table, la tête dans les mains. Il a fait semblant d'être plongé dans un sommeil profond. Il a ronflé régulièrement pour donner l'illusion de ce sommeil. Mais il gardait un œil sur ce qui se passait dans la pièce, de dessous ses bras croisés. Il observait les deux femmes qui tournaient. Bien sûr, elles ont essayé de le réveiller. Elles l'ont secoué doucement, elles lui ont parlé. Mais vous savez, il n'est pire sourd que celui qui ne sait pas entendre. Mathias restait plongé dans le sommeil. Les deux femmes regardaient la pendule. Elles le regardaient, elles se sont parlé à voix basse. Puis, elles ont pris leur décision. La mère a éteint la lumière. Eulalie s'est approchée du placard dans le mur. Elle l'a ouvert. Et du double fond du placard, elle a sorti un pot. Une odeur fétide s'est répandue dans la pièce. Sans doute, ça venait du pot. Eulalie a posé le pot sur la table. Puis, en un tour de main, les deux femmes ont enlevé tous leurs vêtements. Et à tour de rôle, elles ont plongé la main dans le pot. Elles en ont sorti une sorte de pommade noire. Elles ont commencé à se la passer sur tout le corps, en partant des pieds, puis les mollets, les cuisses, le ventre, la poitrine, le dos, les bras, la tête. Tout en se livrant à cette opération, elles murmuraient « Suprafuego, au-dessus du feu, Suprafuego. » Mathias les voyait faire. Quand elles ont eu terminé, elles se sont transformées toutes les deux en chouettes. Et en poussant le cri lugubre de cet oiseau de nuit, elles ont glissé dans la cheminée, elles ont disparu. Mathias s'est redressé. Il s'est dit qu'il avait dû rêver tout ça, qu'il avait dû s'endormir pour de vrai. Mais il a rallumé la lumière et il a vu sur la table le pot de pommade. Il a vu les vêtements des femmes au corps tiède de la chaleur de leur corps. Il s'est dit que tout ça s'était réellement passé. Mathias était un garçon courageux. Pas du tout peureux, très curieux. Tout d'un coup, une idée lui est venue. Il s'est dit, mais qu'est-ce que ça peut faire d'être chouette? Comment ça se passe? Sans plus réfléchir, lui aussi, il a enlevé tous ses vêtements, il les a posés sur une chaise, il a éteint la lumière, il a plongé la main dans le pot de pommade et il a commencé à s'enduire tout le corps, en partant des pieds jusqu'à la tête. Seulement, Est-ce qu'il n'avait pas très bien entendu ce que les femmes disaient? Ou est-ce que l'émotion, toute l'agitation du moment lui avait fait oublier la phrase? Au lieu de dire « soupra fuego » au-dessus du feu, lui, il a marmonné « sotto fuego » au-dessous du feu. « Sotto fuego, sotto fuego hein, » les pieds, les mollets, « sotto fuego », les cuisses, le ventre, les bras, le torse, la tête. Minuit a sonné à ce moment-là. À ce moment-là, Mathias s'est transformé en chouette. Devenu chouette, il a senti un courant qui l'entraînait irrésistiblement vers la cheminée où brûlaient des tisons ardents. Seulement, au lieu de passer par-dessus les tisons, lui, il a été entraîné par-dessous. Il a senti les brûlures du feu sur ses plumes de chouette, mais en même temps sur son corps d'homme. Oh, il souffrait le martyr, mais il se disait, bah, c'est le début, c'est parce que je ne suis pas bien habitué à être une chouette, je ne sais pas bien comment on vole. Puis, le courant l'a emporté dans la cheminée et il s'est retrouvé dehors à l'air libre. Allez, allez, mais les choses sont allées de mal en pis. La chouette Mathias volait haut lorsque la terre était nue. Alors elle volait à toute allure en rase-motte à une vitesse supersonique. Seulement, dès qu'un obstacle se présentait, que ce soit un buisson, une haie, un arbre, alors la chouette était entraînée par-dessous, hein, elle prenait les épines, les ronces, les branches qui lui piquaient, le meurtrissaient, le blessaient de partout. Mathias a cru sa dernière heure arriver et il a essayé d'arrêter tout ça. Il voulait stopper, s'arrêter de voler, seulement c'était impossible. Il était entraîné par une force qui le dépassait de beaucoup. Ah, il s'est dit qu'il allait mourir et voyait les obstacles arriver devant lui à toute allure. Et il ne pouvait pas les éviter. Puis, sans doute, il y aurait laissé sa peau. Mais heureusement pour lui, l'aurore aux doigts de rose a éclairé le ciel. Un coq a chanté au loin. C'était l'aube. À l'aube, ça est fini pour les sorcières. Leur temps est dépassé. Tout d'un coup, Mathias a retrouvé son corps d'homme, il a chuté lourdement sur le sol, il était nu, égratigné de partout, blessé, coupé, meurtri, mais vivant. Il s'est relevé comme il a pu, il a tâté son corps, il n'avait rien de cassé. En clopinant, il s'est dirigé jusqu'à sa maison. Heureusement, à cette heure matinale, il n'a croisé personne. Une fois arrivé chez lui, il a nettoyé et pansé toutes ses blessures. Puis, dès qu'il en a eu la force, il a fait un baluchon et il est parti. Au village, plus personne ne l'a jamais revu. Non seulement il avait quitté le village, mais sans doute la région. Alors, les langues sont allées bon train, bien sûr, sur ce qui avait pu arriver à ce pauvre jeune homme. On a accusé les sorcières de leur faire un mauvais tour, mais les sorcières faisaient peur. Alors, personne n'osait leur demander ce qui s'était passé. Finalement, la curiosité étant la plus forte, un jour, une voisine s'est rendue chez Eulalie, puis, mine de rien, elle a demandé des nouvelles du fiancé. Lali a eu un petit sourire. Elle a montré une carte postale sur le buffet qui représentait un bateau sur la mer. Elle a dit « Oh, je crois que Mathias n'était pas prêt pour le mariage. » Puis elle a regardé la voisine avec suffisamment de méchanceté dans leur regard pour que l'autre marmonne que oui, merci pour le café, mais qu'il était temps pour elle de partir, disparaisse sans demander son reste. Et voilà comment ça s'est passé dans cette histoire.
E face di pomidoro del giardino, mo del giardino, mo del giardino, e face di pomidoro del giardino. Navi me senti la vita e così sia, e così sia, e così sia, e fin me senti la vita e così sia. Dopo un bacio da cotta e bacio torna.
Pizzica, Enza Pagliara et Dario Mucci pour notre pause musicale. Alors aujourd'hui, c'est le jour des histoires étranges. En voici une qui vient d'Inde. Il y avait, dans ces traditions de cycliques, on considère que le monde a plusieurs fois disparu et réapparu. Et voilà que après un de ces cycles et la disparition du monde, il ne restait sur la terre que de vastes marécages, des étendues boueuses, grises et désolées. Toutes les créatures vivantes avaient été détruites, sauf un homme, un vieil homme. Un vieil homme qui s'appelait Markandeya. Markandeya marchait dans l'eau boueuse sans savoir où il allait. Il marchait droit devant lui, complètement épuisé, désespéré. Puis, tout d'un coup, il s'est arrêté. Il ne savait pas pourquoi, mais il s'est retourné. Là, il a vu un arbre qui sortait du marécage, un figuier. Et au pied de ce figuier, il y avait un enfant tout bouclé, très beau, qui lui souriait. L'enfant lui a dit, très gentiment, « Je vois que tu cherches le repos. Entre dans mon ventre. » À ce moment-là, un vent très puissant est sorti de la bouche ouverte de l'enfant. Il est venu envelopper Markandeya. Il l'a emporté. Markandeya s'est senti entrer dans la bouche grande ouverte de l'enfant. Il est descendu jusqu'à son ventre. Là, il s'est retrouvé assis dans une prairie. Il y avait des animaux en train de paître. Il y avait des arbres, une rivière qui chantait. Il y avait des femmes en train de laver du linge à la rivière. Markandeya s'est remis debout, il a marché. Il a marché dans ses prairies. Il a vu une ville ensuite, des rues qui étaient grouillantes de monde. Il a vu un fleuve dans le ventre de l'enfant. Il a vu l'océan, il a vu les étoiles, la terre entière, toute calme et belle. Longtemps il a marché. Il a marché plus de 100 ans, sans jamais en voir la fin. Puis tout d'un coup, Un vent puissant s'est levé et il l'a enveloppé. Markandeya s'est senti aspiré vers le haut. Il est sorti de la bouche de l'enfant et il s'est retrouvé debout en face de lui. L'enfant lui a souri gentiment. Il lui a dit « J'espère que tu es reposé maintenant. » Alors, pour nous, une histoire japonaise. C'est ce qu'on appelle un koan. Un koan, ce sont ces courtes histoires que les maîtres zen racontent à leurs disciples pour les faire réfléchir. Il y a très longtemps, vivait une petite fille qui s'appelait Senjo. Ses parents l'aimaient beaucoup et prenaient grand soin d'elle. Le meilleur ami de Senjo était un jeune garçon du même âge qui s'appelait Oshu. Oshu et Senjo étaient toujours ensemble. Jamais on ne voyait Oshu sans Senjo, ni Senjo sans Oshu. Le père de la petite fille plaisantait toujours et disait « Oh là là, vous deux plus tard, on va vous marier. » Effectivement, les années passant, Senjo est devenue une belle jeune femme, Oshu un beau jeune homme, fort amoureux l'un de l'autre. Et Oshu attendait le moment favorable pour faire sa demande, mais voilà que le père de Senjo a eu un très grave accident et qu'il a perdu l'usage de son bras droit. Alors il ne pouvait plus travailler, la famille était menacée de tomber dans la misère. Alors Oshu était très pauvre. Un soir, le père de Senjo a dit à sa fille « Écoute, nous sommes sauvés, il y a un riche marchand qui a demandé ta main, il va pouvoir faire vivre toute notre famille. » Senjo s'est mise à pleurer, elle ne voulait pas épouser ce marchand, celui qu'elle voulait épouser, c'était Oshu, l'amour de sa vie. Seulement, elle ne voulait pas faire le malheur de sa famille. Alors elle s'est résignée. Elle a accepté la proposition que lui faisait son père. Et dès le lendemain, elle a informé Oshu de cette histoire. Lui a décidé tout de suite de partir. Il ne se voyait pas vivre à côté de Senjo, marié à un autre. Mais il n'a rien dit à personne. Il a fait ses préparatifs. Et le soir même, quand la nuit est tombée, et s'est rendu à sa barque avec son baluchon et il a embarqué et il a commencé à descendre le fleuve. Puis il a entendu qu'on l'appelait depuis la rive et là, dans l'obscurité, il a vu une forme. Oh, cette forme-là, mais il la reconnaîtrait entre mille. C'était Senjo, c'était son amour, sa vie. Alors vite, il a ramené la barque vers la berge. Plus légère qu'un papillon, Senjo a sauté à côté de lui. Ils se sont serrés longuement dans les bras l'un de l'autre, puis ils ont décidé de s'enfuir ensemble. Ils ont laissé la barque descendre le fleuve lorsqu'ils ont eu épuisé leurs provisions. Et plusieurs jours plus tard, ils se sont arrêtés et se sont installés dans la ville où ils étaient arrivés. Là, ils ont vécu heureux. Ils ont eu deux enfants. Les années ont passé. Mais voilà qu'un jour, Oshu a remarqué de la tristesse dans les yeux de sa femme. Alors, il lui a demandé, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Elle a dit, j'ai trop envie de revoir mes parents, mes frères et sœurs, mon village. Oshu lui a dit, tu as raison. Maintenant, il est temps pour nous de rentrer. Tes parents nous ont pardonné, sûrement. Nous irons nous excuser et leur présenter nos enfants. La famille a fait ses préparatifs. Puis ils sont montés dans la barque, tous les quatre, avec de la nourriture, des vêtements et aussi des cadeaux pour les parents de Senjo. Et ils ont refait tout le trajet sur le fleuve que les deux amoureux avaient effectué bien des années auparavant. Quand ils sont arrivés au village, au moment de débarquer, Oshu a vu comme sa femme était pâle. Alors il lui a dit, « Bien, écoute, si tu veux, je vais aller premier, et puis je vais préparer tes parents, présenter mes excuses, ensuite je reviendrai vous chercher, toi et les enfants. » Senjo a fait un petit signe de la tête pour approuver. Oshu est descendu de la barque, il a marché jusqu'à la maison des parents de Senjo. Là, il a frappé et le père de sa femme a eu l'air extrêmement content de le voir. Aussitôt, il a expliqué que Senjo et lui étaient tellement amoureux qu'ils ne pouvaient pas envisager de vivre l'un sans l'autre. C'est pourquoi ils s'étaient enfuis de cette façon-là, sans rien dire, mais que maintenant, ils avaient deux enfants et qu'ils venaient s'excuser pour cette douleur et présenter leurs enfants aux grands-parents. Le père de Senjo et puis sa mère n'ont pas eu l'air de comprendre ce qu'il disait. Ils ont dit mais Senjo, elle n'est pas du tout partie avec toi. Depuis ton départ, elle est là-haut, dans sa chambre. Elle ne mange presque pas et elle a perdu la parole. Chou s'est dit que sans doute ces pauvres vieux avaient perdu la tête de douleur. Et très doucement, il leur a dit « Mais non, je vous assure, elle m'attend là-bas dans la barque avec les enfants, je vais aller la chercher. » Tandis qu'Oshu partait chercher sa femme, vite, les parents de Senjo se précipitaient au premier étage dans la chambre de leur fille. Là, dans le lit, il y avait Senjo, toute pâle. Ils ont raconté que Oshu était de retour. Aussitôt, les couleurs sont revenues aux joues de la jeune fille, elle s'est levée. Et au moment où, à la porte, Senjo entrait, entouré de son mari et de ses enfants, en haut de l'escalier, il y avait une autre Senjo. Exactement semblable. Les deux Senjo se sont souris, puis elles se sont approchées l'une de l'autre. Elles se sont serrées dans leurs bras. Elles se sont serrées très fort. Elles se sont fondues en une seule. Une seule Senjo, plus belle qu'une lune de printemps. Alors elle s'est tournée vers son mari, elle lui a dit « Maintenant, je suis à toi, tout entière. » Alors, laquelle des deux Senjo était la vraie? Est-ce qu'il y en avait deux? Ou est-ce qu'elle n'y avait qu'une seule? Telle est la question du Koan. Et je vous laisse y réfléchir. Qu'est-ce qu'elle raconte en direct sur Radio Saféréole le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h. Je vous donne les références des histoires que j'ai racontées. Suto Fueyo, c'est une version de Dominique Camus dans Des contes de sorcières, édité par West France. L'histoire indienne vient du Cercle des menteurs de Jean-Claude Carrière. Et la dernière, eh bien, on peut trouver une version dans une interview de Leonard Cohen aux Incorruptibles ou un album de John Moose. Je vous laisse à l'écoute de Radio Saint-Féréole.